rendre de la couleur la lumière. Mais ça renvoie à des chiffres. La longueur d'onde du bleu n'est pas la même que celle du mauve ou du mordoré, pour parler comme les poètes. Oui, il voit un coucher de soleil, mais ça ne lui signifie pas du tout que ce monde a un créateur. Ça signifie qu'il y a une réfraction de la lumière sur les couches de l'atmosphère qui fait que le prisme des couleurs de la lumière ont des nuances différentes. Oui, une certaine mentalité. Et il a beau observer les spectacles d'harmonie les plus majestueux dans le monde, ça ne mènera pas l'idée de Dieu, ça le renforcera au fait qu'il y a un lien entre l'esthétique et le scientifique, tout simplement. Vous voyez, l'option du philosophe de la nature, c'est clair? Maintenant, si vous avez un homme dans la sensibilité spirituelle et celle d'un croyant, il lui suffit de voir un coucher de soleil pour être sûr que Dieu existe et qu'il a créé le monde. Vous voyez, à partir du même spectacle, on est renvoyé à deux hypothèses différentes, c'est clair?
C'est ce qui me semble. La nature qui n'a pas de créateur, ça me semble normal.
Oui, mais c'est ça que vous étudiez dans les livres de sciences. Okay. Je vais vous citer. Non, pourquoi vous dites ça? Je ne dirais pas anormal. Je pense que quand quelqu'un se prend au sérieux dans une hypothèse pareille, c'est une maladie mentale. C'est pire qu'anormal. Mais ceci dit, parce que vous avez déjà l'option du croyant de la Bible, vous réagissez en juif. Vous réagissez en juif. C'est clair? Alors, vous savez, il y a des gens qui croient que Dieu a créé une synagogue et qu'il a mis un monde autour. En réalité, ce que nous dit la Bible est un peu différent. Dieu a créé un monde, et dans le monde, il a demandé une synagogue. Ce sont deux religions radicalement différentes. Alors, il ne faut pas réagir avec le postulat que nous, les Juifs, on est normaux et tous les autres sont anormaux. C'est le bon Dieu qui les a créés, et c'est eux le monde, c'est pas nous. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Nous sommes les Juifs, okay. Eux sont le monde. Mais qu'est-ce qu'a dit la Bible? Que Dieu a créé le monde. Et il s'est inventé les Juifs. C'est autre chose. Est-ce que c'est clair? Je dirais même l'inverse. Celui qui voit Dieu dans un coucher de soleil, c'est qu'il est anormal, s'il est goy. Il va m'inventer le Dieu du soleil. Un paganisme quelconque. Pour être croyant, pour les goy, il faut être anormal. Chez les Juifs, c'est l'inverse. Bon, ça vous apprendrez après, ok? Vous n'avez pas remarqué qu'ils se déguisent en sorciers pour faire croyant. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les sorciers, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils se mettent des masques? Regardez-moi, je suis croyant. Parce que chez les goïms, ce n'est pas normal d'être croyant. Ils n'ont pas eu la révélation. Alors en quoi ils croient? Ils se sont inventés des idoles. Vous avez compris la gravité du problème. Alors je vous citerai Pasteur tout à l'heure, je crois que j'en ai parlé, mais je ne vous ai pas donné la citation. Quand un savant goy dit « mais j'ai aucune preuve de... » Mais c'est lui qui est normal, il n'y a pas de preuve en tant que savant. C'est nous qui avons une sensibilité différente parce que nous avons reçu l'éducation de la Bible. Et puis c'est même plus profond que ça, nous sommes nés juifs. Habituez-vous à cette différence. Vous savez que tous les matins on dit une bracha, « Baruch shelor asani goy ». Vous connaissez ça? D'ailleurs même, dès qu'on traduit ça, on est gêné avec les goyims. On bénit Dieu qui ne nous a pas fait goy. Une chutzpa monumentale. Il y a je ne sais pas combien de milliards d'individus sur la planète, et puis nous, on a les autres, comme on dit en arabe. Nous les Juifs, c'est nous les normaux, et puis les autres. Et il faut se réveiller, quoi. C'est du délire. Vous ne vous sentez pas? Et je vais vous citer une explication d'ailleurs, cette bracha. On remercie Dieu de nous a pas fait naître goy, parce que sinon on aurait risqué d'être anti-juif. Il vaut mieux encore être mesou. En tout cas, pour revenir au problème, faites bien attention, quand vous jugez du dedans de la sensibilité biblique, vous avez des critères de jugement qui sont bien particuliers. Vezot, à Torah, à Shersam, Moshe, Lifne, Vene, Israël. Ça, c'est la Torah que Moïse a donnée aux enfants d'Israël. Les autres ne sont pas dans le coup. Alors, on ne peut pas leur reprocher de ne pas réagir selon la Torah. Parce que ce que nous savons de la Torah, c'est parce que la Torah nous a été donnée. Sinon, nous serions comme eux. La Torah n'est pas quelque chose de la nature. La Torah est révélée, elle vient d'ailleurs. C'est comme ça qu'on dit Torah min ha-shamayim. C'est pas pour rien. Elle vient du ciel, personne ne comprend ce qu'elle veut dire. Mais elle n'est pas de la terre. Et les terriens, les terrestres, qui naissent de la terre, n'ont aucune connaturalité avec la Torah. Ils réagissent comme de braves goyim. Alors, c'est clair ce que je dis là. Ne croyez pas qu'ils sont fous, c'est nous qui sommes spéciaux. C'est nous qui sommes à part. Vous savez qu'il y a deux sortes de juifs. Les juifs à part entière et les juifs entièrement à part. Mais les deux sont juifs. Et alors faites attention dans vos jugements. Okay. Ça c'est très chassidique d'ailleurs. Pour les chassidim, les goyim ça n'existe pas, c'est des fantômes. Et le monde des chassidim, c'est un monde où les goyim c'est des ombres. Okay. Méfiez-vous, c'est pas ce que dit la Torah. Faites attention à ça. Alors, faites attention. C'est bien que vous ayez posé la question. Comme je dis, la manière dont nous réagissons, c'est par notre sensibilité, notre familiarité avec une éducation de plusieurs milliers d'années qui nous vient des Hébreux. Et alors, on ne peut pas réagir autrement. Sinon, faites attention, sinon c'est du racisme. Dire que la différence qu'il y a entre les Juifs et les goyim sur les questions de religion, c'est une question d'intelligence, c'est du racisme. Ça veut dire que toute l'humanité, sauf nous, serait une race abattardie qui a perdu la raison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est du délire. Moi, j'ai des amis goy, physiciens brillants, mathématiciens super brillants. Dès qu'on parle de religion, c'est du délire, à enfermer dans un asile. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non, mais je vous garantis, on n'a aucune idée. Quand même. Un goy se met à lire la Bible, qu'est-ce qu'il peut sortir comme ch'touillotte que... Mais qu'est-ce que ça veut dire que ils sont pas leur intelligence n'est pas normale. C'est eux qui ont fait la science. Et c'est grâce à eux qu'on a des frigidaires le Shabbat pour boire frais le Shabbat. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ils sont normaux en tout, sauf dans ce qui concerne la Torah. Et les choses en parlent la Torah. Alors dire que c'est une question d'intelligence, la différence de sensibilité religieuse, c'est du racisme. Ce sont des Bnei Adam, mais ils n'ont pas eu la chance d'être en Israël qui a reçu la révélation de la Torah. C'est ce que nous disons, les autres à Torah, d'Aber et Bnei Israël. C'est Dieu qui a décidé, parle aux enfants d'Israël. Et les autres, ils font la science, ils font la civilisation. Nous, c'est la Torah. Vous avez compris la différence? Alors ne reprochez jamais à un goy de réagir comme un goy. Il réagit normalement comme un goy. C'est clair. C'est quand un goy est religieux que moi ça me paraît suspect. Et d'ailleurs c'est vrai. Dès qu'il commence à parler de la Bible, on rentre dans une sacristie, une religion de mort, d'enterrement, de, je ne sais pas, vous vous rendez compte de ce que c'est. Ces églises, ces cathédrales où vous avez vécu là-bas, hein, et où on se paye le luxe de dire Amen en latin en plus. Hein. Ils projettent leur mentalité sur la Bible. C'est une question d'âme, pas d'intelligence. Leur âme est différente. Alors si on comprend cette différence, là on n'est pas raciste. Chacun a l'âme qu'il a. Une rose, c'est pas un lys, et un lys, c'est pas un pavot. Et tout ça, ça fait un bouquet. Mais c'est pas un déshonneur pour une rose de ne pas être une marguerite. Et c'est pas un déshonneur pour une marguerite de ne pas être une rose. Le déshonneur, c'est quand la marguerite se prend pour une rose. Elle finit par faire comme la grenouille, elle va se prendre pour un bœuf. vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait le caractère grotesque des goyim lorsqu'ils parlent de la Bible, c'est qu'ils se prétendent être Israël. Alors tout est rendu impur. Mais ceci dit, en tant qu'hommes du monde, c'est eux qui sont normaux. N'ai pas remarqué que les juifs dans le paysage goy, ça fait pièce rapportée. En France, il y a une flore, une faune et les goyim du coin. Mettez les juifs là-dedans, exotique. N'ai pas remarqué ça. Baladez-vous dans le 8e arrondissement à Paris. Vous voyez les grands panonceaux. Ici, on mange cachère. Ça veut dire, vous les goyim, vous mangez de la cochonnerie. En plus, c'est vrai, mais on est chez eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'où vous sortez. Imaginez que dans un quartier chrétien à Jaffa, vous savez qu'il y a des quartiers chrétiens à Jaffa, okay, je ne parle même pas de Bethléem, mais de Jaffa. Alors imaginez qu'un boucher goy, enfin arabe chrétien, vous mette un grand panonceau en hébreu, okay, cochonnaille pur porc garanti par l'évêque du coin. Il y aurait une émeute. Nous, au 9e arrondissement, vous avez les grands panonceaux, Beddin, et les goyims qui passent là, ah oui, nous on mange impur. Ça c'est la choutpa juive, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi je me rappelle quand j'ai commencé mes études, juste après la guerre mondiale, commencé mes études à Paris, Il y avait un restaurant cachère, un petit restaurant ashkenaz, camouflé dans une cour. Il fallait passer par une porte cochère, d'ailleurs, pour arriver au restaurant cachère. Et puis les Sfaradim sont arrivés, ils se sont crus chez eux, comme à Alger, comme à Tunis, comme à Marrakech. On est chez nous. Vous vous rendez compte de la patience des Français, on n'a aucune idée. Ils sont patients. Nous, on a la science et la patience. Mais imaginez que ce soit des Juifs à la place des Français. Il y a longtemps que les Juifs seraient expulsés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Essayez de vous réveiller de ce cauchemar. Je suppose que vous êtes cru chez vous à Paris. Okay, d'accord. Et une fois, j'ai fait une conférence à Paris, et il y a un Juif parisien qui dit « Mais je suis chez moi ici. » « Ah, tiens, bon, tu es chez toi à Paris. » C'est ce qu'on appelle l'impérialisme juif. Il a annexé Paris. Réfléchissez bien, quand même. Bon, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? De quoi on parlait avant? Qu'est-ce que tu veux demander, toi? Un très grand danger. Moi, je suis émerveillé de la patience des Français. Un jour, ils vont bouger les épaules. Vous savez, mais je vous parle comme Israélien. Mais je vous parle surtout comme Juif. Moi, je suis un Juif originaire d'Afrique du Nord. On savait très bien qu'on n'était pas chez nous en Afrique du Nord. Mais on avait nos quartiers. Et puis on arrive en France en parlant français. Et en plus, on se moquait des Français, ces pauvres, l'accent qu'ils avaient. Et puis, ils parlent pointu en plus. Et alors, on arrive en France et on se prend, nous les Français. Comme par exemple à Montréal, les Juifs, c'est eux les Français du Québec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont originaires du Maroc. C'est des Américains. Vous savez que nous sommes un peuple sur mesure. Et alors, mais je réponds à ta question, c'est très sérieux. Vous savez, très souvent, vous croyez qu'un Français est anti-juif, alors que le pauvre, il est tout simplement français. C'est lui qui est chez lui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est rien? Oui, mais il a peut-être des raisons. Réfléchis bien à ça. Je vais te raconter, à des minutes, pas deux à la fois. Je vais te raconter deux histoires. Si j'oublie la deuxième, c'est pas grave, mais je vais te raconter la première. Un jour, on se trouve à Lyon. Il n'y a personne d'entre vous de Lyon, pas encore. Toi? Non. Il y a des années. C'était au temps où les Juifs de France faisaient des meetings et des cortèges pour exiger que le Juif de Russie ait le droit de quitter la Russie pour aller en Israël. Vous vous rappelez de ce temps-là? Par hasard, je me trouve à Lyon pour autre chose. Et alors, j'assiste à un cortège, avec en tête du cortège des drapeaux français et des drapeaux israéliens. Et puis, nos braves petits juifs, en train, et des grands et des vieux aussi, en train d'exiger de la France d'intervenir à Moscou pour que les Russes laissent les juifs partir en Israël. Et où ça se passait? À Lyon. Or, à Lyon, on peut acheter un billet comme on veut. Hein, mais ça se passait à Lyon, où on exigeait que les juifs russes aillent en Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je commence à dire. Hein, bon. Et alors, il y avait deux braves gendarmes qui accompagnaient du côté où j'étais, qui accompagnaient le cortège. Et un qui dit à l'autre, bonhomme, il lui dit, tiens, en lissant la moustache, les Israéliens qui défilent. Et alors, il y avait en tête du cortège des drapeaux israéliens. Hein. Alors, il y a un juif qui sort du cortège, qui engueule le gendarme. Monsieur, vous êtes un anti-juif, moi je suis un Français. Alors, tu lui réponds très bien, et qu'est-ce que c'est ce drapeau? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ça rend l'égoïme anti-juif. Je vais raconter une autre histoire qui est beaucoup plus douloureuse. J'ai eu il y a très longtemps un ami à l'université de Jérusalem, qui était à la retraite déjà à l'époque. Maintenant que Dieu est son âme, il était très âgé. C'était un juif polonais qui avait quitté la Pologne avant Hitler, pour émigrer en Allemagne, au temps de la République de Weimar, avant le nazisme. Et vous connaissez la promotion des Juifs sortis des ghettos. Quelques années après, il était à l'université de Berlin, citoyen allemand, professeur d'université. Et puis, l'hitlérisme arrive. Et alors, il avait un ami goy qui lui dit, mon brave Salomon, il s'appelait Salomon, tu as un oncle en Amérique, sauve-toi. L'hitlérisme, c'est très grave pour vous. Avant qu'on commence le nazisme proprement parlé. Et l'autre qui réagit en disant, mais moi qu'est-ce qu'on va me faire? Je suis citoyen allemand, protégé par les lois allemandes, professeur de l'université de Berlin, qu'est-ce qu'on va me faire? Finalement l'autre s'est énervé, il dit, mais si toi tu es allemand, et il savait qu'il était juif polonais, si toi tu es allemand, moi qu'est-ce que je suis? que dit l'Allemand. Vous savez ce que lui répond le juif ? Toi, t'es goy. Alors, toi, t'es goy. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là ? L'Allemand, c'est le juif polonais. Et l'Allemand, le pauvre, qu'est-ce qu'il est ? Goy. Il ne voulait pas qu'il devienne anti-juif ? Chez lui, en plus. Réfléchissez. Ça y est, c'est clair ?
Non.
Ah non. Ouais. Vous êtes encore pied noir.
Je suis non.
Et alors, qu'est-ce qui n'est pas clair ?
Parce que peut-être pour mon esprit, c'est égaré.
Okay. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Écoutez, un juif polonais qui devient allemand par la grâce des lois allemandes et qui, lorsque l'allemand lui demande si toi tu es allemand, moi qu'est-ce que je suis ? Lui répond, toi tu es goy. Je ne sais pas vous demander quand ce qui se passe. Alors, il se passe que la fureur de l'Allemagne, mais seulement en ce temps-là, c'était le fureur. Oui, la gravité. Mais c'est ce qui se passe en France actuellement. Et vous avez un mouvement qui s'appelle le Front National. Et vous les traitez d'anti-juifs. Comme tu dis, ils le sont certainement. Mais ils sont chez eux. Et tout ce qu'ils disent est vrai. La preuve, c'est que ce en quoi les juifs croient que leur pays, c'est Israël. Alors quand les goïms leur disent, c'est de l'antisémitisme. C'est ça que vous pensez ? Réfléchissez bien. Non, tout ça, ça vient de quoi ? Qu'il ne faut pas croire que les goïms sont forcément anormaux. C'est tout à fait autre chose. Ils sont goïs. Est-ce que c'est clair ? Bon, méfiez-vous, parce qu'on est prévenu par ce livre. Et alors, lisez Ézéchiel, lisez Jérémie, Isaïe. Le seul problème qu'il faut arriver à comprendre, c'est ceci dit, qu'est-ce que les Juifs, les Hébreux d'abord, font chez les goïms ? Comment s'expliquer ça ? Au point qu'on en arrive à un stade où les Juifs peuvent, en toute bonne foi, s'imaginer qu'ils sont Allemands en Allemagne, Français en France. Est-ce que c'est clair ? Je vous donne mon cas. Moi, je suis né en Algérie. Par conséquent, si je devais être goy, que Dieu préserve, je serais algérien. Oui. Et alors pourquoi algérien non et français oui ? C'est du racisme, ça. Alors tous ces petits Juifs algériens qui se prennent pour des Français en France sont des racistes anti-algériens. Alors qu'ils sont nés là-bas. Vous comprenez ? Pourquoi les Algériens parlent français ? Ce qui est mon cas d'ailleurs. Il paraît même que je n'ai même pas d'accent. J'ai un petit accent toulousain. Qui c'est qui est Toulouse ? Je ne sais pas d'où je l'ai sorti. Eh bien, vous savez pourquoi je parle français ? C'est parce que les Français, il y a eu un incident dans leur histoire, ont colonisé l'Algérie. Ils sont venus nous apprendre le français, ils sont repartis. Alors c'est pour ça que les Juifs algériens parlent français. Ça fait de moi un Français. Je suis citoyen de l'État français. Et en plus, officier de réserve, parce que j'ai fait la guerre dans l'armée française. Mais ça ne veut pas dire que je suis français, je suis juif. Et si je devais être autre chose que lui, je serais algérien. Mais alors algérien, non, parce que c'est des Arabes. Et français, oui, c'est du racisme. C'est clair, non ? Alors tous ces petits Nord-Africains en France, c'est des racistes. Pourquoi ils ne sont pas en Afrique du Nord ? Pour la même raison qu'ils ne sont pas en Israël. Parce qu'ils préfèrent être chez les autres. Il faut ouvrir les yeux. Ils préfèrent gagner de l'argent chez les autres. Parce que qu'est-ce que fait un juif nord-africain en France ? Il enseigne la Bible aux Français ? Nous avons une mission chez les goïms. Il gagne sa vie. Il la gagne bien, d'ailleurs. Et puis il envoie une petite contribution à Israël pour se dédouaner la conscience. Et en réclamant qu'on donne le pays aux Arabes, en plus. Alors vous voyez à quel point les Juifs sont dangereux à manier. Réfléchissez bien. Ça ne signifie pas, je reviens à ce que tu disais, qu'un anti-juif, c'est pas un anti-juif. Il faut se méfier, c'est une grave maladie, l'antisémitisme. Mais ne croyez pas qu'ils sont anormaux. Les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on pourrait le croire. Et vous savez, pour ne pas vous donner trop de cauchemars, je vais vous raconter l'histoire de Le Pen. Eh bien, tout simplement, c'est dans chaque porte, il y a une serrure, et dans la serrure, il y a Le Pen de la serrure. Et quand la porte se ferme, elle se ferme. Alors, dites ça à vos cousins de l'étranger. Vous avez compris le problème ? Il ne joue pas à autre chose que ça. C'est Le Pen de la serrure. C'est un personnage biblique. Il renvoie les Juifs chez eux. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ça vous fait de la peine. Bon, on n'a pas quitté le sujet, d'ailleurs. Parce qu'on va découvrir que l'identité Israël, à un certain moment, elle va devenir juive. Elle est d'abord hébraïque. C'est une identité à expliquer. d'où ça sort. Quoi qu'il en soit, je reviens au récit de la création.
Mais oui, faites attention à toutes ces parenthèses. En réalité, on ne quitte pas le sujet. Mais quelle heure il est ? Midi et quart. Il ne me reste qu'un quart d'heure, mais ça va me suffire, j'espère.
Alors, nous allons prendre le récit de l'œuvre du premier jour pour mettre en évidence le plan, la structure de chacun des jours dans ce récit.
Je vais aller assez rapidement, mais j'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour vous. Alors, prenez à partir du verset 3. À partir du verset 3. Et comme d'habitude, je vais vous lire simultanément en hébreu et en français. Alors, ceux qui ont un texte français, suivez aussi sur les deux. Je suis complètement d'accord qu'il faut que, dès le début, vous étudiez sur des livres hébreux. Bien ? Parce que vous devez vous hébraïser et le faire rapidement. Seulement, ceci dit, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ne faites pas semblant de comprendre. Si vous avez besoin de connaître, même grosso modo, le contenu d'un verset, lisez-le en français. C'est clair ce que je dis, bien ? Alors, voilà comment commence l'organisation de ce chaos du commencement, l'œuvre du premier jour. Et en même temps, vous notez le plan, la structure de chaque récit, de chaque jour, que vous retrouverez dans chacun des jours, de façon plus ou moins modifiée, suivant l'objet du récit. C'est-à-dire, il y a le projet de l'œuvre du premier jour, le projet de l'œuvre du deuxième jour, etc. Alors, on va voir le plan, le plus simple, c'est dans le projet de l'œuvre du premier jour. Vayomer Elohim, suivez son texte, hein, c'est pas écrit sur ma figure. Vayomer Elohim, et Dieu dit, Yehi Or. Je traduis en hébreu précis, qu'il y ait lumière. La traduction que la lumière soit est fausse, il n'y a pas la lumière. La lumière c'est Haor. Mais Yehi Or, qu'il y ait de la lumière. Vous apprendrez plus tard pourquoi c'est important de voir cette différence. Vayi Or, il y eut de la lumière. Suivez bien sur le texte. Vayar Elohim, et Dieu vit, et ici ça veut dire approuva, et Taor, la lumière qui tourne, et il vit qu'elle était bonne. Tout de suite vous devinez la question, comment il ne le sait pas à l'avance, que la lumière est bonne. On répondra d'autre part. Vayavdel Elohim, et Dieu sépara Benahor entre la lumière, ou Benachosher et entre l'obscurité. Verset 5, Vayikra Elohim Laor Yom, et Dieu nomma la lumière jour, mais la rocher karalaïla, et à l'obscurité il l'avait nommé nuit, vaïaere vaïboker, et ce fut soir, ce fut matin, yomechad jour 1. Alors je vais revenir sur cette lecture pour qu'on dégage la structure du plan du récit. Encore une fois, pourquoi c'est important ? Parce que c'est la même structure pour les six jours, et c'est la même structure pour tout récit historique de la Bible. Alors, c'est là que le cours va commencer. Faites bien attention. S'il y a quelque chose qui vous échappe, arrêtez-moi tout de suite. Okay? Alors, premièrement, mettez grand A, si vous voulez, ou grand 1, il y a l'énoncé du projet du Créateur. Quand il y a, et Dieu dit qu'il y est, c'est le projet qu'il a, ce qu'il veut voir exister. Donc, le projet. Et ici, le projet, c'est qu'il y ait lumière. Parce qu'on a appris du verset précédent que dans l'état de chaos, il y avait obscurité. Vous verrez dans le verset 2. Le monde à l'état de chaos, dans l'instant du commencement, était obscur. Alors Dieu dit qu'il y ait lumière. Ça, c'est le projet. Grand 1, le projet. Deuxièmement, le récit historique. Qu'est-ce qu'il y a eu de la réalisation ? Et il y eut lumière. Alors nous verrons que l'œuvre du premier jour est un cas particulier. C'est bien le projet qui a eu lieu dans la réalisation. Vous y êtes ? Partout ailleurs, dans tous les autres jours, nous verrons qu'il n'y a qu'une approximation du projet qui a été réalisé. C'est ce que vous lirez dans le texte, et il en fut ainsi. Vayi Chen. Il en fut ainsi. Les autres jours, vous vérifierez, ce n'est pas le projet qui a eu lieu, mais quelque chose comme le projet, ainsi. Alors je vais vous faire l'analyse du mot Chen en hébreu. C'est un mot dont on se sert pour dire oui. Chen. Chen, on dit ken, nachon, justement, nachon. Nachon, ça veut dire c'est bien, mais dans le sens de c'est suffisamment bien pour qu'on passe à l'étape suivante. Alors, on va faire d'abord du français. Et il en fut ainsi. En français, ça semble vouloir dire c'est exactement ce qu'on a demandé qui a eu lieu. Nachon, bon, c'est pas ce que dit l'hébreu. Et il n'en fut qu'ainsi, il faut lire. Il y a eu un quasi de la chose. Je vous emploie le mot latin. pour ainsi, quasi. C'est passé en français, là, c'est clair. À peu près. Okay. Une approximation. Mais tout de suite va se dégager, à partir du deuxième jour, un décalage entre le projet et la réalisation du projet. Il y a un déchet qui va s'accumuler de jour en jour. D'où ça vient? Ça vient, disons, par postulat, parce qu'il faut l'étudier beaucoup plus profondément, que la création n'arrive pas à réaliser tout de suite ce que Dieu voulait. Il faut toute une histoire pour arriver à le réaliser, et entre-temps, il y a des déchets. Mais le premier jour, la création a bien réagi. Dieu dit qu'il y ait lumière, et le monde est devenu lumière. Alors oui, qu'on est très loin d'une mentalité selon laquelle il y aurait ici un diktat, Dieu qui décide, et c'est ce qu'il veut qui se fait. Quand vous lirez suffisamment familièrement le texte en hébreu, vous verrez qu'on est dans un autre texte. Il y a un désir de Dieu, un projet. Voilà ce que je voudrais et qu'il y ait. Et puis c'est au monde de réagir pour arriver à réussir ce que Dieu veut. C'est quand on lit la Bible en latin, dans les catégories latines, qu'on a cette impression d'un diktat. Et alors d'où notre problème de tout à l'heure? Et si le Tout-Puissant a décrété que ce soit comme ça, pourquoi c'est autrement? Vous avez compris l'importance du problème. Okay? Alors, dès qu'on le lit en hébreu, ça change. Retenez bien cette expression « vaïhi chen » et « il en fut ainsi ». Dans l'ancien français, « ainsi », ça veut dire « comme ». Ça ne veut pas dire exactement la même chose. Ce n'est pas ça qu'il y a eu. Il y a eu « comme cela ». Ainsi. Vous voyez, c'est clair? Alors vous voyez qu'on lit un autre texte en hébreu. Je vous ai prévenu tout à l'heure, avec les précautions d'usage, il faut bien vous accrocher. Okay? Il faut lire en hébreu. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de fausses questions vont s'évacuer d'elles-mêmes. Il y a un décalage entre le projet et la réalisation du projet. Après, métaphysiquement, philosophiquement, on va se demander pourquoi et qu'est-ce que ça signifie. Mais d'abord, on prend acte de ce que la Bible dit, de ce que le récit dit. C'est dans un monde de la réalité approximative du parfait du projet que nous sommes situés dans la Asiya, le quatrième terme. Okay. Bara, c'est le monde du projet du Créateur, marché vétaboré, est parfait. Mais il faut réaliser ce projet de perfection. Dans la réalité, c'est différent. Il y a en haut et en bas. Et en bas, c'est détraqué. C'est en haut que c'est parfait. J'ai un peu forcé l'analogie, mais comprenez bien ça. Alors, si vous découvrez qu'en bas, il y a de l'imperfection, la Torah va vous dire c'est normal, c'est en bas. Alors, il ne faut pas juger en bas par les lois d'en haut, ni juger en haut par les lois d'en bas. J'ai compris le vocabulaire. Okay? En haut, c'est Bria. En bas, c'est Asiya. Et alors, nous avons énormément d'enseignements dans le Talmud, dans le Midrash, qui indiquent cela. Lorsque Dieu a créé le monde, il va donner à sa créature une autonomie, une liberté d'autonomie. Et lorsque Dieu agit, sauf les cas de miracle où il intervient pour bousculer l'état du monde, c'est les grands récits de miracles que nous avons dans la Bible, c'est des catastrophes parce que Dieu intervient avant que le monde ne soit au point, eh bien, lorsqu'il agit, c'est dans les limites que lui laisse l'homme, dans sa liberté de créature. Je vous donne un exemple d'un enseignement que vous entendrez souvent. Enlo, le Akadosh Baruch Hu, Beolamo, et la Arba Amot, c'est la Halacha Bilbad. Vous connaissez ça? Vous avez entendu ça? Alors je traduis. Dieu ne possède dans son monde que les quatre coudées de la Halacha. C'est-à-dire, Dieu ne peut agir dans le monde qu'à travers les quatre côtés de la halakha. Et alors, vous comprenez la gravité du problème. Plus ces quatre côtés de la halakha sont larges, et plus Dieu agit dans le monde, moins elles sont larges et moins il agit. C'est-à-dire, la créature contraint le créateur à être le tzamtzem, et comment même le tzamtzem ? À restreindre son intervention. C'est un problème sociologique, d'ailleurs, dans la société juive. Il y a ceux qui font les quatre coudées de la halakha les plus resserrés possibles. Okay? Ça, interdit, ça, interdit, ça, interdit. À qui on interdit? On interdit à Dieu. Okay? Et puis ceux qui veulent que les quatre coudées de la halakha sont grandes comme les étoiles. Oui, c'est deux tendances. On peut rendre la volonté de Dieu prisonnière de la petitesse humaine. Parce qu'il y a un postulat de la création que tant que l'œuvre de l'histoire du monde pour réaliser le projet du Créateur est en cours, Dieu s'interdit d'intervenir. Il n'intervient que s'il y a picoir nefesh, que s'il y a danger pour son monde, il intervient et c'est toujours des catastrophes. Avant la fin des temps. On a un rendez-vous à la fin des temps pour le jugement. Est-ce que la réalisation coïncide avec le projet? Mais entre-temps, Dieu ne peut intervenir que dans les limites de la liberté humaine. À moins qu'il suspende son Shabbat, et à ce moment-là, il y a un miracle. Mais on n'aime pas déranger Dieu avant la fin des temps. Comme ça, vous familiariserez avec la... C'est le contraire du paganisme. Le païen croit quand il y a un miracle. Pour la Torah, c'est l'inverse. On est dans le Shabbat. S'il faut un miracle, on aura un miracle. Mais à économiser. Vous vous habituerez à tout cela. Vous voyez que c'est une religiosité différente que celle des païens. Je vous donne un exemple. La Torah nous raconte que Aaron a été pleuré le double de Moïse, le double de temps de Moïse. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ça, les anciens. Le deuil de Aaron, à la fin des 40 ans du désert, a été le double que le deuil pour Moïse. Et le Talmud dit tranquillement, parce que le peuple préférait Aaron. Pourquoi? Parce que Moïse faisait des miracles. Non, puisque je vous ai parlé de ça, il faut vous en parler un peu plus quand même, mais on reprendra. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un miracle pour croire, c'est que je ne crois pas. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai besoin d'un miracle pour croire. Non, ça veut dire que je ne suis pas croyant. Il n'y a que les païens qui croient au miracle. Qui croient parce qu'il y a des miracles. Alors, rassurez-vous, le monde normal d'Israël